Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, il est l'heure de se retrouver pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine est une semaine un petit peu particulière, puisqu'on va s'intéresser de plus près à la poésie érotique. Tout part en fait d'une retrouvaille que j'ai eue grâce à un réseau social. Une retrouvaille avec un auteur que j'avais déjà lu à deux reprises dans les lectures érotiques de Charlie. J'ai nommé Charles Deligne. En fait, Charles Deligne a écrit un texte il y a quelques années qui s'appelle « Les délices de la duchesse ». Alors, ne vous précipitez pas pour l'acheter, puisque ce texte n'est plus disponible. Ouais, je sais, c'est vache, j'avoue, c'est mon côté un petit peu sadique, va savoir. Mais vous avez, cela dit, deux beaux extraits à retrouver en fouillant dans mon podcast. Vous avez deux beaux extraits, si vous allez sur mon site, lec.charlie-liveshow.com, je vous mettrai le lien dans l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui vers les deux extraits des délices de la duchesse. Charles Deligne, donc, dans Les délices de la duchesse, nous emmenait au XIXe siècle, au moment des guerres napoléoniennes, tout ça, et une histoire très hot entre une épouse, son mari est parti à la guerre, et il y a l'ami de son mari qui lui dit que son mari va arriver, mais bon, bah, tu comprends, ça a été long de l'attendre, et pim pam poum, et le mari revient, et oh mon Dieu, et je ne vais pas tout vous dévoiler, vous n'avez qu'à réécouter le podcast. Mais la particularité de Charles Deligne, c'est qu'il arrivait à faire rimer érotisme avec imparfait du subjonctif. Et avec des phrases, une écriture très travaillée, avoir quelque chose de vraiment très cul et pourtant très travaillé. C'était super fluide à lire, super agréable et extrêmement bien écrit. Et il se trouve que il y a pas longtemps, j'ai une demande d'amitié sur Facebook, machin, puis j'accepte. Et puis, d'un coup, c'était pas le... il n'y avait pas marqué Charles Deligne, il y avait marqué un autre nom que je ne vous révélerai pas. Et il me dit, je suis retombée sur la lecture que vous aviez faite des délices de la duchesse et je n'écris plus, mais c'est un bonheur de réentendre ça. Et du coup, il m'a proposé de m'envoyer des textes inédits, un recueil apparemment, vu la forme que ça prend, un recueil qui devait être publié, qui mêle nouvelles érotiques et poèmes érotiques. Et ça m'a fait du bien de relire de la poésie. Je me suis dit que on manquait de poésie à l'heure actuelle, c'est vrai. Qui lit encore de la poésie? Qui écoute de la poésie? Et moi j'adore ça, c'est la musique des mots, c'est l'évocation. Cette évocation, on sort de la définition, on est dans un monde de l'image, tout est défini, décrypté, pris en gros plan, zoomé. Alors on essaye de mettre des filtres, des machins, de se rendre instagrammable, mais enfin, l'évocation, on ne sait plus trop ce que ça veut dire en fait. La poésie, c'est de l'évocation, et la poésie, ça nous fait accéder à l'infini qui est contenu dans le fini. Je vous laisse méditer là-dessus. Et on commence d'ailleurs avec l'avant-propos de ce recueil qui n'a pas vu le jour, mais que grâce à moi vous allez découvrir en partie, l'avant-propos de Charles Deligne par rapport à l'érotisme et la littérature. L'érotisme en littérature est un chemin mort. Je nie qu'il soit à la source, je ne dis pas d'un seul livre, mais d'un seul poème, d'un seul vers, de ceux que nous ruminons depuis que nous avons un cœur et qui souffrent. La satiété de l'animal triste n'a jamais inspiré personne. Voilà le vrai. Et les purs érotiques ne sont jamais capables de jalousie, qui est la passion génératrice du drame et donc de toute littérature. Je relis parfois cette charge de François Mauriac, écrite en 1958, 4 ans après Histoire d'eau, sur son fameux bloc-notes, où il aimait tant éreinter en toute charité ce qui lui faisait peur, ou qu'il ne comprenait pas. Croyant défendre une conception chrétienne de l'amour, il n'était finalement que le héros d'un mariage bourgeois, provincial, modèle de relations convenues, fleurant bon le cadastre et l'adultère. À chaque fois que l'envie d'écrire domine mon envie de faire l'amour, à chaque fois que je lance des mots pour construire au-dessus des flots sombres de l'existence un pont qui mènera peut-être au mystère propre de la chair, à chaque fois que je demande aux mots de rimer pour chercher le sens amoureux de la souffrance offerte et consentie, à chaque fois que je prends le risque de séparer amour et plaisir, je songe à cette impasse à laquelle Mauriac voue la littérature érotique, et je m'y engouffre avec la curiosité de l'explorateur. Croit-on avoir tout lu ? Non, bien sûr, puisque l'on n'a pas tout écrit. Je n'ai nulle envie d'accabler Mauriac, déjà parce que je conserve le sens des mesures et des perspectives. Mais à tout prendre, il y a sans doute, dans son amour sage, une grande part d'amour fou. Et je ne suis pas certain de ne pas partager, moi aussi, le rêve de l'union unique et hiératique qui rassemble deux êtres au sein des quatre éléments. Ma propre jalousie me le rappelle souvent, tout érotique que je sois. Mais pourquoi vouloir tordre les plumes et assécher les encres qui chroniquent les tourments du corps, leurs danses lascives ou effrénées, leurs ruses, leurs poisons, leurs regrets, leurs fulgurances, leurs délices? J'imagine parfois que Prométhée n'a pas arraché aux dieux le feu pour le livrer aux hommes, mais qu'il a dérobé à l'Olympe un bien plus précieux, l'instinct de plaisir. La colère des dieux n'en serait-elle pas plus intelligible si on l'explique non plus par le larcin du feu, mais par un don véritablement divin, celui de n'être plus l'animal triste que la fin du coït vautre dans la torpeur, mais bien ce grand fauve qui garde en lui l'essence divine de ses amours décomposés. Et si tel est le cas, chacun de ceux qui écrivent prolongerait sur terre l'aventure prométhéenne. Dans nos passions d'amour, nous demeurons comme des dieux. Mais mes dieux et mes déesses à moi ont leur rond de serviette chez Aristophane, Plaute, Martial, Pindare, Lucien de Samosate, Épicure. En fait, je crois qu'ils nous ressemblent. Chez eux, rien de grave. Même la souffrance demeure plaisante lorsque les reins sont cambrés par le plaisir et que les yeux, en se fermant, consentent à tout. Voilà, c'était donc l'avant-propos de Charles de Ligne, de ce recueil qui mêle nouvelles et poèmes, et que vous ne lirez jamais puisque il m'a fait le cadeau de l'exclusivité de ces textes. Donc, eh bien, vous allez les découvrir par ma voix. J'espère leur rendre honneur. Alors, je suis extrêmement d'accord avec ce que dit Charles de Ligne dans son avant-propos. L'érotisme nous parle de nos désirs, de nos pulsions de vie, de la source de la vie. Et si l'érotisme ne peut pas être la source d'un poème, mais ça veut dire qu'on réduit l'érotisme et la sexualité en général, mais notamment la littérature et la poésie érotique, à un vulgaire gonzo, un espèce de support masturbatoire, histoire de « allez, on se dégorge un petit peu le poireau, on fait dégorger la moule, hein, le poireau, la moule, tout se dégorge, tout va bien ». Non, mais non, c'est impossible. L'érotisme, c'est la mise en scène de notre sexualité. Notre sexualité, qui n'est plus reproductrice depuis longtemps, ça fait longtemps quand même qu'on a plus une sexualité qui n'est vouée qu'à faire des gamins et à se reproduire, quoi. Enfin, je crois quand même, hein. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a des scientifiques. Du coup, notre sexualité, c'est aussi un accès à l'infini en nous, comme la poésie. Vous savez, ce moment où tu t'abandonnes complètement à la jouissance et tu as l'impression que tu es connecté au divin. Alors là, vous vous dites, ça y est, elle a pété un câble, la Charlie, mais je vous jure que non, pas du tout. Voyez ces moments de vraiment d'abandon complet et où tu as la sensation que tu es relié à quelque chose de plus grand que ce qu'on t'a appris à définir comme la réalité. Il y a quelque chose d'autre, ce moment où tu te sens connecté, cette fameuse connexion dont on parle. C'est quoi ce truc-là magique qu'on ne peut pas définir? Allez, place à la poésie, puisque la poésie, comme la sexualité, nous relie à l'infini. Je vais donc commencer, au gré de mes envies, à vous lire les poèmes de Charles de Ligne, absolument pas dans l'ordre où il me les a proposés, parce que j'ai décidé que je faisais ce que je voulais. Voilà, un petit peu de liberté, ça fait du bien. Le premier poème que je vais vous lire s'appelle « Fantaisie ». Lorsqu'elle m'eut rejoint dans cette pièce obscure, nue, je lui ai laissé seulement ses chaussures et je l'ai attachée au poteau de torture, entravé tous ses membres d'une corde bien sûre, masqué ses beaux yeux bruns d'une rouge guipure, de son dos, de ses reins, j'ai forcé la cambrure, préparant ma cravache, aiguisant mes morsures, détaillant mes désirs en d'inquiétants murmures, lui rappelant sans doute d'émouvantes lectures, portant bottes et culottes, gants, dolman et ceinture, j'ai dressé ma pouliche à toutes les allures et laissé sur sa peau d'amoureuses zébrures. On continue avec un autre poème qui s'appelle « Canicule ». J'aimerais que reviennent les jours de canicule, où tu livrais ton corps tout en perles salées au souffle mécanique qui, jusqu'au crépuscule, caressait tendrement ta fleur de peau hâlée. À l'heure où je rentrais, parmi les campanules, je te trouvais toujours sur le ventre allongé, et s'il manquait parfois une rime en « hule », ce n'était jamais faute d'y avoir bien songé. Je vous laisse deviner quelle est la rime en « hule ». Voici un autre court poème qui s'appelle « Je veux t'aimer sur une chaise ». Ni les moelleux coussins jetés sur les divans, ni les lits vénitiens, les couches cingalaises, ni les nattes de plage caressées par le vent, je veux t'aimer sur une chaise. Ni les lits clos bretons gardiens de nos étreintes, ni la couette qui orne l'alcôve japonaise, ni décadent sofa qu'eût aimé des essaintes, je veux t'aimer sur une chaise. Ni sous la canadienne le matelas rigide, ni le pucier branlant aux grinçantes mortaises, ni l'inquiétant sommier tout équipé de brides, je veux t'aimer sur une chaise. Le seul lit que je veux serait un lit de braise, mais en attendant mieux, je veux t'aimer sur une chaise. Le poème suivant s'appelle « Sonner pour ne rêver qu'à vous » pour Laurence. Si j'ai un jour rêvé aux fêtes, aux absinthes, aux bals qui s'évaporent à la tombée du loup, ou des femmes, aux visages de piétas et de saintes morfondues par le jour, ne tiennent plus debout et s'accrochent à moi de leurs orbites peintes, criant de leurs yeux noirs, prisonniers du vaudou, un appel silencieux au temps qui les éreinte et les courbe, roseaux, jusque à mes genoux. Si j'ai voulu un jour être le goémon arraché au rocher dont la vague se joue, si j'ai voulu un jour, je ne le veux plus. Non, car la chance fait qu'enfin, rien qu'à vous, je me voue. Je n'ai plus sur les lèvres que votre doux prénom et plus qu'un dernier rêve. Ne rêvez plus qu'à vous. Le poème d'après s'appelle « Sonate en trio ». Dans sa robe de bal, on l'a assise en face, sur un petit fauteuil, près de l'immense glace. Mais elle ne peut pas voir sa fine silhouette que les chandelles éclairent, que la glace reflète, car un sombre bandeau est serré sur ses yeux et ne lui livre rien des hommes ni des lieux. Des hommes, parlons-en, car ils sont deux ce soir. Son amant, tout d'abord, qui la tient dans le noir et qui, sur leur silence, a refermé la porte. Et l'inconnu debout, tout près de ses aortes, où son cœur vient jeter des fleuves de désir. Ce soir, elle est le choix et n'a rien à choisir. La main de l'inconnu vient frôler les entraves qu'a nouées son amant pour en faire une esclave. À tout ce qui advient, elle sait qu'elle consent. les lèvres de l'amant, son ami caressant, leurs mains hardies qui vont, en la dévêtissant, l'amener jusqu'au lit où, sans nulle défense, elle livrera son corps. Que la fête commence. Le poème d'après s'appelle « Entravé ». J'ai préparé mes cordes. Donnez-moi vos chevilles, car je veux qu'elles vous mordent. Donnez-moi vos deux mains, votre doux corps de fille, à moi, jusqu'à demain. Mes lanières de cuir, je les tiens fermement. Elles vous feront gémir. Je bois votre souffrance, je la bois tendrement, jusqu'à votre jouissance. Le poème suivant s'appelle « Anaphore ». Soumise, je veux ta peau sous ma main de velours. Soumise, je veux tes seins écrasant ma poitrine. Soumise, je veux t'entendre gémir sous moi d'amour. Soumise, je veux ma poigne au long de ton échine. Soumise, je veux ton front pour mes brûlants baisers. Soumise, je veux ta voix et son charmant murmure. Soumise, je veux tes reins et sur eux tout oser. Soumise, je veux ta croupe affamée de zébrures. Soumise, je veux tes pieds pour mes mains punissantes. Soumise, je veux ton ventre pour y poser ma joue. Soumise, je veux ta nuque pour être obéissante. Soumise, je veux ta poupe en même temps que ta proue. Soumise, je veux tes yeux sous de sombres guipures. Soumise, je veux ton nez humant tous mes parfums. Soumise, je veux ta langue, instrument de luxure. Soumise, je veux ta bouche, car j'en ai toujours faim. Soumise, je veux sur toi un entrelacs de cordes. Soumise, je veux l'accord de ton corps languissant. Soumise, je veux partout que mon désir te morde. Soumise, je veux t'ouvrir à coups de reins puissants. Soumise, je veux te voir à genoux devant moi. Soumise, je veux goûter ta position d'offrande. Soumise, je veux toujours que perle ton émoi. Soumise, je veux toujours que tu en redemandes. Soumise, je veux t'offrir à l'inconnu qui passe. Soumise, je veux tes mains prises par des menottes. Soumise, je veux tes mains écartant ta rosace. Soumise, je veux ta jupe et jamais de culotte. Soumise, je veux le cuir pour épouser tes reins. Soumise, je veux l'acier pour entraver ton col. Soumise, je veux du bois pour qu'il pince tes seins. Soumise, je veux la cire comme un brûlant licol. Soumise, je veux être le maître de tes sens. Soumise, je veux jouir de tous tes désarrois. Soumise, je veux te vivre entre cris et silence. Soumise, je veux ta vie pour en être le roi. Et voici enfin le dernier poème de Charles de Ligne qui s'appelle « Ta douleur ». Mordre aux fruits que tu tends vers ma bouche cruelle, attacher tes chevilles et aussi tes poignets, n'écouter nulle plainte, arracher tes dentelles et malgré ta souffrance ne jamais t'épargner la douleur qui, seule, te fait reine, ma belle. Et voilà, nous arrivons donc à la fin des poèmes exclusifs que m'a confié Charles de Ligne. Il y a également des nouvelles, croyez-moi, vous aurez bientôt des exclusivités rien que pour vous de ces nouvelles que personne n'a lues, mais que j'ai moi et que je pourrais vous offrir. En attendant, je me suis régalée avec cette session de poésie et je compte bien recommencer car, comme je vous l'ai dit, on manque de poésie, on a besoin de poésie. Et la poésie, elle est aussi faite pour être lue. Je vous lis une petite citation de Léo Ferré que j'adore. Léo Ferré dit « La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archet qui le touche. Alors, je vais être la corde vocale de la poésie pour lui donner son sexe. Ça me plaît beaucoup comme idée. Du coup, je vais vous lire un poème pour finir, non pas de Charles de Ligne, puisque comme je vous l'ai dit, on a tout épuisé les poèmes de Charles de Ligne, oui, mais un poème d'un poète bien connu, un auteur que vous connaissez. Alors, vous le connaissez certainement avec des poèmes qui ne sont pas érotiques. J'ai nommé Paul Verlaine. Peut-être que vous aussi, bien sagement, vous avez appris votre poésie à l'école. Par exemple, Voyelles de Verlaine. Là, on est dans un tout autre domaine. Vous allez voir, c'est très franchement érotique. Et sachez que ce n'est pas le seul. Il y a énormément Apollinaire, Musset. Il y a énormément de poètes et d'auteurs qui ont écrit aussi de l'érotisme. Il faudrait voir un petit peu à sortir l'érotisme de son placard honteux. Non, mais quand même, hein ? Eh bien alors moi, je m'y emploie. Allons-y avec ce poème de Paul Verlaine qui s'appelle « Régal ». Croise tes cuisses sur ma tête, de façon à ce que ma langue, taisant toute sotte harangue, ne puisse plus que faire fête à ton con, ainsi qu'à ton cul, dont je suis là jamais vaincu, comme de tout ton corps du reste, et de ton âme mal céleste, et de ton esprit carnassier, qui dévore en moi l'idéal, et m'a fait le plus putassier, du plus pur, du plus lilial que j'étais avant ta rencontre, depuis des ans, et puis des ans. Là, dispose-toi bien, et montre par quelque geste complaisant qu'au fond, t'aimes ton vieux bonhomme, ou du moins le souffre faisant minette, avec boule de gomme et feuille de rose, tout comme un jeune mieux séduisant sans doute, mais moins basse en somme quant à la science et au fer. Oh ton con, qu'il sent bon! J'y fouille tant de la gueule que du blaire, et j'y fais le diable, et j'y flaire, et j'y farfouille, et j'y bafouille, et j'y renifle, et oh! J'y bave dans ton con à l'odeur cochonne que surplombe une motte flave et qu'un duvet roux environne qui mène au trou miraculeux où je farfouille, où je bafouille, où je renifle et où je bave avec le soin méticuleux et l'âpre ferveur d'un esclave affranchi de tout préjugé. L'arrêt adorable que j'ai léché à morceaux depuis les reins en passant par le puits où je m'attarde en un long stage pour les dévotions d'usage, me conduit tout droit à la fente triomphante de mon infante. Là, je dis un salamalek absolument ésotérique, au clitoris rien moins que sec, si bien que ma tête d'en bas, qu'exaspère tous ses ébats, s'épanche en blanche rhétorique, mais s'apaise dès ses prémices. Et je m'endors entre tes cuisses, qu'à travers tout cet émoi tendre, la fatigue t'a fait détendre. Paul Verlaine a écrit ce poème en 1890 dans un recueil qui s'appelle « Femmes ». Et si ça, c'est pas du cunilingus, anulingus de fou furieux, où le mec, en fait, il fait un truc de... Il fait un cuni de malade, et en plus, il prend tellement son pied à manger le con et le cul de sa partenaire, qu'il en jouit lui aussi, répandant, comme il le dit si joliment, sa blanche rhétorique. Son sperme, donc, hein, si vous n'aviez pas compris. Voilà, je suis désolée, je viens de tuer toute poésie en 2 secondes. C'est pour ça que moi, je ne fais que lire. Je n'écris pas de la poésie. Moi, je la lis. Eh bien, écoutez, mes chers amis, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, ce podcast touche à sa fin. Je vous mettrai en lien sur l'article qui présente la lecture du jour. Alors, non pas le lien pour pouvoir lire les poèmes de Charles de Ligne, puisque vous ne le pouvez pas, puisque ce sont des textes exclusifs qu'il m'a envoyés à moi. Et ouais, je fais un petit peu ma crâneuse. Mais par contre, je vous mettrai des liens vers des sites où vous pouvez lire vous aussi de la poésie érotique et découvrir une autre manière d'envisager la littérature érotique. Parce que c'est vrai que on peut aussi voir le sexe comme de la poésie en mouvement. Et ouais, et si notre partie de jambes en l'air et notre cunnilingus donnait de la poésie en mouvement, oui, soyons révolutionnaires. C'est Jodorowsky qui faisait de la poésie en mouvement. On peut faire de tout, de notre vie, toute notre vie peut devenir poème. Il y a une citation, je ne l'ai plus en tête, qui dit que en gros, on ne capte de la poésie que ce qu'on porte en soi de poésie, en fait. Voilà, en gros. C'est pas très bien. Je vais retrouver la citation, c'est vachement mieux écrit. En attendant, je vous fais des gros bisous. Alors, je vous donne l'adresse de mon site pour retrouver les liens vers la poésie érotique, le petit article qui présente la lecture du jour. Donc, c'est lec.charlie-liveshow.com. Et puis, sur mon site, vous avez aussi le lien pour aller sur mon Patreon. Je vous le donne aussi comme ça, à la bouche, dicté à la bouche. Attention, bam, bam, bam. patreon.com/charlielifeshow, incroyable. Et ce site Patreon, ça permet de soutenir les lectures érotiques de Charlie, puisque c'est un podcast qui est totalement autoproduit et j'ai besoin de votre soutien. Donc chaque soutien de votre part, pour moi, ça m'encourage déjà à continuer et ça me donne les moyens aussi de continuer, d'acquérir du matériel, etc., etc. D'ailleurs, je tiens à faire une dédicace et un immense merci à tous les Patreons qui me soutiennent, ceux qui viennent de me rejoindre récemment. Votre geste me va vraiment droit au cœur. Merci infiniment, infiniment, infiniment. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des envies, moi là j'ai des envies de poèmes, donc je vous les fais partager. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'en faire part par les commentaires dans mon site, en m'envoyant un mail, etc., etc. Je vous redonne l'adresse de mon site lec.charlie-liveshow.com. Vous pouvez reprendre une activité normale car ce podcast est à présent terminé. Prenez soin de vous et rappelez-vous, l'érotisme, comme la sexualité, c'est l'accès à l'infini en nous. Alors, soyons infinis. Oui, je n'ai même plus en tête la citation de Toy Story. C'est lamentable. Ma tête, c'est du cheddar. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.